L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Amar Mansouri, chercheur en génie nucléaire qui a travaillé sur le dossier du programme nucléaire militaire français en Algérie. Avec lui, nous allons parler de la Journée internationale d'interdiction des essais nucléaires, fêtée chaque année le 29 août depuis le 2009. Nous nous pencherons en particulier sur les effets néfastes des explosions nucléaires dans le monde, notamment en Algérie et en Polynésie française. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'histoire des essais nucléaires a commencé à l'aube du 16 juillet 1945 sur un site d'essais désertique à Alamo Gordo, au Nouveau-Mexique, quand les États-Unis ont fait exploser leur première bombe atomique. Depuis cette date, plus de 2000 essais nucléaires ont été effectués. Au fil des années, il est apparu clairement que les essais nucléaires ont des conséquences redoutables et tragiques, surtout en cas de défaillance de conditions de réalisation, d'autant que les armes nucléaires actuelles sont beaucoup plus puissantes et destructrices qu'à l'époque. Depuis la proclamation de la Journée internationale contre les essais nucléaires, nombre d'avancées bilatérales et multilatérales gouvernementales ainsi que de vastes mouvements de la société civile ont contribué à faire progresser la cause de l'interdiction des essais nucléaires. L'instrument international permettant d'atteindre l'objectif visé est le traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 1996. Malheureusement, celui-ci n'est pas encore entré en vigueur. En limitant la mise au point de nouveaux types d'armes nucléaires perfectionnées, le traité freine la course aux armements. Il constitue également un obstacle normatif puissant contre les États potentiels qui pourraient chercher à développer, fabriquer et acquérir ultérieurement des armes nucléaires en violation de leurs engagements de non-prolifération. Alors, pour discuter de cette journée qui s'annonce importante, notamment dans le contexte international actuel, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Amar Mansouri, chercheur en génie nucléaire à la retraite, qui a travaillé sur le programme nucléaire militaire français en Algérie. Amar Mansouri, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, bonsoir. Merci pour cette rencontre. Ça m'a fait un grand plaisir.
Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Mansouri. Alors, le 2 décembre 2009, lors de sa 64e session, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 29 août Journée internationale contre les essais nucléaires en adoptant une résolution. Le préambule de cette résolution souligne, je cite, qu'il ne faut pas ménager aucun effort pour mettre fin aux essais nucléaires afin d'éviter leurs effets dévastateurs et nocifs sur la vie et la santé des populations ainsi que sur l'environnement et que l'arrêt des essais nucléaires est l'un des principaux moyens d'atteindre l'objectif d'un monde sans armes nucléaires. Alors ma première question, disons que les vœux, c'est facile, mais c'est de les réaliser qui est un peu compliqué. Alors ma première question, est-ce que cette résolution est totalement respectée et pourquoi l'avoir adoptée tardivement?
Bon, commençons par le commencement. Déjà, il faut rappeler que le 29 août, comment a été choisi, c'est sur proposition du Kazakhstan, où le Kazakhstan était le théâtre de centaines d'explosions nucléaires de l'Union soviétique.
Oui.
Donc, c'était le premier essai de l'URSS, c'était le 29 août 1949. Il y a eu beaucoup d'efforts à travers le monde et au niveau de l'ONU pour mettre fin à un danger qui guette l'humanité, pas l'Algérie ou notre pays, toute l'humanité. Donc, comme on a l'expérience d'Hiroshima et Nagasaki, donc on sait le danger des armes nucléaires. Donc tous les efforts diplomatiques, les efforts politiques, les efforts bilatéraux entre les États au niveau de l'ONU sont arrivés effectivement tardivement, bien sûr, parce que ce n'est pas facile de convaincre les puissances nucléaires ou bien de convaincre d'autres pays de ne pas accéder aux armes nucléaires. Donc l'essentiel, on est arrivé à une journée mondiale, et c'est un rappel pour tout le monde, cette journée, on doit rappeler les effets néfastes de cette arme ou de ces explosions nucléaires sur la faune, la flore, sur la santé humaine. Donc c'est un pas bon, qui mérite d'être mis en relief, parce que le fait qu'on est arrivé à avoir une journée mondiale contre les armes nucléaires, donc c'est une reconnaissance au moins que ces armes présentent un danger permanent pour l'humanité.
D'accord. Alors, la seconde question, si la communauté internationale s'accorde généralement à reconnaître les risques pour la vie humaine encourus lors des essais d'armes nucléaires, comme vous venez de le rappeler à juste titre, il demeure des soupçons quant à la possibilité d'essais nucléaires clandestins. C'est ce que, du moins, dit l'ONU. D'aucuns craignent également que, faute d'essai, la fiabilité des armes nucléaires ne soit pas compromise. Donc, ça vise directement donc, les pays qui maîtrisent la technologie des armes nucléaires. Alors, moi, ma question, y a-t-il un moyen dont dispose l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui est l'organe de l'ONU qui s'occupe de cette question-là, de prévenir ce genre d'infraction et de les faire échouer?
Normalement, il y a tout un programme au niveau de l'AIEA, de l'ONU. Donc, on a mis au niveau du globe terrestre des installations sismiques, des installations, c'est-à-dire au niveau de la mer, c'est-à-dire pas mal de pays. Je n'ai pas le nombre exact, etc. Même, on a mis en place 16 laboratoires.
Ils ont dit plus d'une centaine.
S'il y a le moindre, c'est-à-dire la moindre explosion nucléaire quelque part dans le monde, elle est enregistrée quelque part. Donc, on peut pas, aucun pays ne peut, c'est-à-dire, échapper à ce contrôle. Donc, sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des pays qui veulent ou qui sont en train de développer ces armes, c'est avec la complicité d'autres pays ou d'autres puissances nucléaires. Ce n'est pas vrai. Donc, actuellement, à mon avis, même je donne un exemple concret, lors des explosions nucléaires françaises au Sahara, les États-Unis ont mis des installations au niveau de la Libye, des installations sismiques, et ils ont suivi de près toutes les explosions nucléaires françaises au Sahara. Donc, actuellement, dans le monde, j'ai dit qu'il y a un peu partout des installations qui surveillent tout c'est-à-dire aucun essai, aucune explosion ne peut échapper à ces installations qui sont un peu partout dans le monde. Et il y a même, j'ai dit, 16 laboratoires, j'ai une bonne mémoire. Ces laboratoires, c'est pour analyser s'il y a une explosion quelque part, analyser l'air, etc., pour voir s'il y a de l'iode, par exemple, s'il y a, etc., pour ne pas confondre avec un séisme, parce qu'on peut confondre avec un séisme.
C'est justement la question que je voulais vous dire. Donc, ce sont des installations et des systèmes d'analyse de puissance d'un tremblement de terre, mais qui a quand même les moyens, j'espère, de différencier un tremblement de terre d'une explosion nucléaire.
Bien sûr, il y a moins de différencier, surtout avec les analyses au niveau des laboratoires, etc. Donc, même sur le plan des ondes, ce n'est pas la même chose. Mais il y a plus de confusion en cas. Mais il n'y a pas que les trucs sismiques, il y a aussi sonores, il y a beaucoup, je n'ai pas devant moi les données, mais il y a des trucs sonores, des trucs...
La radioactivité.
Radionucléique, etc. Donc, pour détecter tout ce qui concerne une explosion nucléaire.
D'accord. Ici, cela est détecté. Est-ce que l'AIEA ou l'ONU a les moyens d'agir pour demander des comptes au pays qui procède à des essais nucléaires, voire lui faire échouer d'éventuels nouveaux essais.
L'essentiel, c'est qu'au niveau de la réglementation internationale, et des conventions et des traités, il y a des traités internationaux, tout est prévu et les sanctions sont prévues. Donc il y a même l'intervention de l'AIEA en direct et l'ONU et le Conseil de sécurité vont décider. C'est-à-dire, si on détecte quelque part qu'un pays a procédé à une explosion nucléaire, c'est sûr que ça sera sanctionné sur le plan international, parce que toute la communauté internationale est d'accord pour mettre fin à ces explosions. Donc on ne peut pas laisser un pays se permettre d'avancer dans cette voie. Donc c'est, je crois, à mon avis, il y a toute une réglementation et tout un mécanisme pour procéder à mettre fin à des explosions clandestines ou des essais clandestins.
D'accord. Et donc, de ce point de vue, est-ce que vous pouvez nous faire, expliquer à nos auditeurs pourquoi une explosion nucléaire présente, au-delà de la capacité instantanée de destruction massive, pourquoi après elle présente un danger mortel pour tout ce qui est vivant?
L'essentiel, une explosion nucléaire, c'est quoi? C'est surtout le souffle, pour commencer. Oui. Donc, tout ce qui est autour de l'histoire détruit. Il y a aussi toute cette énergie et tout ce qui tout brûle à des kilomètres. Et il y a, le plus important, c'est la production de radioisotopes. Donc, les produits de fission, ce qu'on appelle les produits de fission. Donc, ces produits de fission, ils contiennent de l'iode qui a une période de demi-vie de 8 jours. Et s'il y a dans la région des enfants, etc., et cette iode, il va à la thyroïde, et avec le temps, et il va déclencher des cancers au niveau de la thyroïde de ces jeunes après des 10 ans, après 20 ans, etc. Donc s'il y a du plutonium, qui a une durée de demi-vie de 24 400 années, donc il est réparti un peu partout dans cette zone. Donc, c'est un danger permanent pour des milliers d'années. Mmh. Donc, c'est, entre autres, le strontium. Il y a beaucoup de césium qui a une durée de vie de 30 années. Donc, vous voyez, donc, tous ces produits de fission présentent un danger pour c'est-à-dire des centaines, des milliers d'années pour la zone qui a été contaminée. De la contamination à une relation avec la puissance de la bombe, 15 kilotonnes, c'est pas comme 20, comme 30, comme 60, etc., donc, le danger est multiple.
D'accord. Donc, mais plus précisément, M. Mansouri, le danger, c'est la radioactivité, donc, si j'ai bien compris, qui est engendrée par tous les éléments radioactifs qui sont les déchets d'une explosion nucléaire. C'est les produits de fission. Qu'est-ce qu'ils font pour le vivant? Par exemple, prenons l'être humain. C'est une attaque contre l'ADN qui fait qu'après, il y a des cancers qui se développent.
Oui, yeah. Non. C'est-à-dire qu'il y a des éléments radioactifs sont émetteurs de rayonnement alpha.
Oui.
Alpha qu'on peut arrêter avec une feuille de papier, mais au contact, c'est un danger. Il y a d'autres qui sont émetteurs de rayonnement bêta, qu'on peut arrêter avec plexiglas. Et il y a le troisième type, c'est les émetteurs de gamma. Et gamma qu'on ne peut pas arrêter qu'avec un cube d'un mètre cube de béton. Mmh. Donc, et ces rayonnements, quand ils attaquent l'être humain, il y a des mutations, ils attaquent l'ADN, donc il y a des mutations. Et ces les apparitions de cancers et de maladies ne surviennent pas immédiatement si la dose n'est pas forte. Mmh. Donc, c'est avec le temps. Déjà, actuellement, on constate qu'après 20, 30, 40, 50 ans, qu'il y a eu apparition de cancer au niveau des gens qui ont travaillé au niveau du site ou des gens qui ont été contaminés, etc. Mais s'il y a une forte dose, il y a soit la mort, instantanée, soit des maladies directes. Et la majorité des gens actuellement, c'est des gens qui ont reçu des doses pas assez importantes et ces petites doses ont conduit à des multiples cancers au niveau des travailleurs de centrales nucléaires ou bien des gens qui ont été au niveau des explosions nucléaires quelque part dans le monde.
D'accord. Alors, Monsieur Mansouri, puisque ce rayonnement, en particulier donc le rayonnement gamma, vous avez dit un mètre cube du béton, on ne peut pas fabriquer, par exemple, un manteau à un être humain qui a le poids d'un mètre cube de béton pour arrêter les rayons gamma.
Un mètre cube pour l'arrêter.
Pour l'arrêter. Juste pour l'arrêter. Voilà. Alors, mais est-ce qu'il y a un danger? Par exemple, si, parce que je suppose aussi qu'il y a des effets qui ne sont pas déterministiques, qui sont stochastiques, et c'est-à-dire probabilistes, est-ce que les générations futures, même si ceux qui ont été irradiés directement n'ont pas eu de cancer ou de malformation, est-ce que les générations qui viennent après risquent de développer ce genre de problème de santé?
Exactement. L'essentiel, je dois rappeler qu'il y a faire la différence entre irradiation et contamination. Mmh. L'irradiation, c'est quand il y a une source et vous êtes exposé à une source, vous êtes irradié. Donc, avec les rayonnements, j'ai dit bêta, gamma ou alpha. Par contre, la contamination, c'est quand on est par ingestion ou par inhalation ou par piqûre qu'on a à l'intérieur de notre organisme un élément radioactif. Mmh. Donc, l'être humain devient radioactif. Donc, l'être humain lui-même devient radioactif s'il y a une ingestion d'un élément radioactif, etc. Donc, ça, c'est la différence entre irradiation et contamination. Mmh. Donc, toute personne qui a été irradiée ou bien contaminée, il y a des effets sur la génétique.
D'accord.
Actuellement, il y a eu même une étude qui a été faite par les Anglais. Ils disent que les effets des rayonnements peuvent aller jusqu'à 22 générations. 22 générations, wow. On peut avoir des malformations. Et actuellement, chez nous, il y a beaucoup de malformations. Il y a des monstres, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Mm-hmm. Pas si vous avez l'occasion, peut-être je vous ai envoyé des photos.
Oui, la dernière
donc,
fois.
Voilà. Et ces malformations, c'est après 60 ans, quand même, en 60 ans. Et donc, c'est ces années-là qu'il y a eu. Donc, les effets demeurent, ça continue. Donc, ce n'est pas quelque chose de limité. Ce n'est pas un crime limité.
Limité dans le temps.
C'est un crime continu dans le temps.
Ouais.
C'est un crime qui continue dans le temps. C'est ça, le malheur. Donc, les gens qui sont contaminés ou irradiés, bon, ils sont morts, etc., etc. Mais ils ont laissé derrière eux des générations de gens avec des malformations, des handicaps, mentaux, etc., etc. Donc, c'est pour cette raison qu'au niveau de l'ONU, les gens sont conscients que les explosions nucléaires, l'arme nucléaire, c'est un danger qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas éliminer. C'est un danger, c'est pas comme les dangers qu'on connaît, classiques, etc. Donc, l'expérience de Hiroshima et de Nagasaki au niveau du Japon, les documents qui ont été réalisés, les trucs, c'est-à-dire, nous poussent à tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut mettre ça, il faut interdire, il faut, etc. Et en même temps, il faut reconnaître aussi ce qui a été fait. On interdit, d'accord. Il faut reconnaître le passé. Mm-hmm. Toutes ces puissances nucléaires, ils ont quand même. C'est-à-dire qu'ils ont irradié, ils ont contaminé des zones importantes au niveau de l'orbite terrestre. Il y a beaucoup de populations, et surtout des populations autochtones au niveau de l'Australie, au niveau de la Chine, au niveau de l'Algérie, au niveau un peu partout dans le monde, qui sont victimes de cette course vers la puissance nucléaire.
Pour rappel,
le Royaume-Uni a testé pour la première fois ses armes nucléaires en octobre 1952, le troisième pays au monde après les États-Unis et l'URSS. Il reste le seul membre du club nucléaire à ne pas avoir effectué d'essais sur son propre territoire. L'Australie et les îles de l'océan Pacifique ont invariablement servi de site d'essai. Au sud de l'Australie, la Grande-Bretagne a procédé à 12 essais nucléaires majeurs entre 1955 et 1963, avec une puissance approximative allant de 1 à 27 kilotonnes en équivalent TNT. Ces informations ont été gardées secrètes pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'en 1984, après un certain nombre de reportages médiatiques scandaleux, qu'une commission a été créée pour étudier les conséquences des essais. Ces travaux ont permis de révéler les énormes dégâts subis par les populations indigènes ainsi que par le personnel militaire australien. Selon le rapport de la commission, le risque de contamination par les radiations était encore important en 1985. Les efforts de nettoyage n'ont été achevés qu'en 2000 pour un coût de 108 millions de dollars pour le Trésor britannique. Pourtant, bien que les autorités aient reconnu le risque élevé des essais pour la santé, de nombreuses informations au sujet de l'Australie continuent d'être gardées secrètes.
Donc, et la France fait partie de ces puissances qui a voulu à tout prix être ou bien accéder au club nucléaire et sur le dos des Algériens. Et qu'elle ne reconnaît jusqu'à présent même pas cet acte criminel.
On y reviendra, oui.
Ça doit être inhumain.
Bien. Voilà. Alors, mais avant de passer à autre chose, une dernière question, Monsieur Mansouri. Donc, il y a beaucoup de mouvements de la société civile qui attaquent la question des essais nucléaires. Il y a aussi beaucoup d'ONG qui demandent le démantèlement total des armes nucléaires et d'arrêter les essais et tout. Mais il y a quand même une technique qui a été développée, ça fait quelques années, c'est la simulation. Est-ce que le fait d'arrêter les essais nucléaires peut effectivement déboucher sur la destruction des armes nucléaires ou l'arrêt complètement de la construction des armes nucléaires? Donc moi, ma question, qu'en est-il des techniques de simulation? Est-ce qu'elles sont toujours en cours? Est-ce qu'elles sont arrêtées? Parce que comme le phénomène de la fission est très très bien connu, les calculs ou simulations par informatique peuvent en quelque sorte remplacer les essais. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'essentiel, c'est-à-dire on veut interdire les essais nucléaires, c'est pour les pays émergents, pour les pays qui veulent
Contre
pour les puissances nucléaires, les puissances nucléaires. Et il y a, comme il ne faut pas oublier qu'il y a une course, il y a la bipolarisation du monde, il y a Vous voyez, donc les États-Unis, l'URSS, la Russie, la Chine, etc., tous ces pays, la France, ils sont en train de développer d'autres techniques, d'autres technologies de simulation au niveau des labos, etc. Donc le danger est toujours permanent. L'essentiel, au moins, arriver à ce que d'autres pays ne développent pas cette arme destructive, et que le problème reste entre les puissances.
Donc, pour vous, M. Mansouri, la question de parvenir à l'élimination totale des armes nucléaires sur Terre est un objectif qui n'est pas vraiment réaliste.
N'est pas, c'est-à-dire, réalisable, vu les conflits actuellement. Le contexte international a changé. Donc, on est revenu au point zéro d'il y a après la Deuxième Guerre mondiale, on est arrivé à la guerre froide, etc. Donc ces conflits-là ne peuvent pas permettre à ces puissances d'éliminer ces armes nucléaires. Au contraire, ils vont les encourager à développer d'autres techniques pour des situations par rapport aux ennemis.
Depuis l'ouverture du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, à la signature en septembre 1996, 10 essais ont été effectués. L'Inde a procédé à 2 en 1998, le Pakistan a procédé à 2 en 1998, juste après l'Inde, et la République populaire démocratique de Corée a procédé à des essais nucléaires en 2006, 2009, 2013, 2016 et 2017. Voilà. Alors, ma question, la dernière, pour finir avec cette première partie, y a-t-il des mécanismes ou des garanties que ce genre d'essais en violation de la résolution de l'ONU ne se répète pas?
Ça relève de la compétence des organes de l'ONU, et ça relève de la volonté des pays. Si vous parlez, par exemple, de l'Inde, quand elle a procédé à des essais nucléaires, et tout de suite, l'ennemi de l'Inde, c'est quoi? C'est le Pakistan. Il a développé des trucs. Et c'est comment il a développé? Avec la complicité de certaines puissances nucléaires. Ce n'est pas par hasard.
Oui.
Donc, à mon avis, s'il y a de la volonté au niveau de l'ONU, au niveau de l'AIOA, au niveau du Conseil de sécurité, on peut quand même maîtriser ce qui est maîtrisable. Ce qui est fait est fait. Actuellement, il y a quelques puissances nucléaires, c'est connu. Pour que ce club ne s'élargisse pas, au moins, et qu'on reste dans cette situation et qu'on milite dans le but de d'éliminer progressivement ces armes nucléaires. Donc sinon, s'il n'y a pas cette volonté, c'est risqué. Un jour, on va pas entendre Corée bis ou Inde bis ou d'autres pays qui ils vont nous faire la surprise qu'ils ont développé l'arme nucléaire. Et si c'est ça va dans ce sens, le monde sera, c'est-à-dire, pas en sécurité parce qu'il n'y a pas une maîtrise. Moi, ce que je veux discuter, c'est qu'on maîtrise cette situation et on essaye de mettre de l'ordre petit à petit et éliminer ça parce qu'il y a eu au niveau des États-Unis des URSS, l'élimination de certaines armes. Ils ont réduit quand même. Donc, on essaye, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres. S'il y a d'autres, donc on ne peut plus maîtriser la situation. Est-ce que vous m'avez compris?
Oui, donc vous voulez dire que s'il y a une beaucoup plus grande prolifération, un jour, quelqu'un peut s'énerver et appuyer sur le bouton.
Tu peux plus maîtriser le monde.
Absolument, absolument.
Un petit pays qui a la bombe, il peut l'utiliser à tout moment.
Voilà.
Et bien, ça, c'est la catastrophe.
D'accord.
Donc, c'est le problème entre les grandes puissances. On essaye de militer au niveau de l'ONU, de l'AIEA, au niveau de la sécurité. Actuellement, l'Algérie est membre dans ce sens pour petit à petit maîtriser la situation, orienter les choses vers le bon sens. Et peut-être un jour, il va y avoir un consensus international pour l'élimination de toutes ces armes.
D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Amar Mansouri, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Amar Mansouri, chercheur en génie nucléaire à la retraite, qui a travaillé sur le programme nucléaire militaire français en Algérie. Amar Mansouri, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Bien. Merci pour cette invitation.
Je vous en prie, monsieur, tout le plaisir est pour nous. Alors, revenons maintenant à ce qui concerne l'Afrique. Alors, le 13 février 1960, la France a effectué sa première explosion nucléaire dans la région de Reghen, au sud de l'Algérie, dans le Sahara, au sud de l'Algérie. Et cette explosion atmosphérique, dont le nom de code était Gerboise Bleue, a été suivie de 56 autres explosions, essais complémentaires et expérimentations jusqu'à 1966. La France a effectué en Algérie, entre 1960 et 1966, donc 57 explosions,
oui.
4 atmosphériques dans la région de Reghen, 13 souterraines à Inéker et 35 essais complémentaires à Hemoudia dans la région de Reghen et 5 expérimentations sur le plutonium et d'autres. Bien. Alors, ma question, vu quand même c'est pas rien ce qui s'est passé, où en est l'état d'avancement du dossier de la reconnaissance de la responsabilité de la France sur la question de la contamination des sols, et qu'en est-il donc du travail? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour les décontaminer? Et puis, les victimes, y a-t-il quelque chose concernant l'indemnisation de la part de l'État français?
C'est-à-dire, je rappelle que le nombre d'explosions, ce n'est pas 57, c'est 60.
Ah.
Donc, dernièrement, on a découvert qu'il y a eu 3 explosions souterraines à Heineken. En plus des 17, il y a eu 3 autres.
Ah oui,
et
d'accord.
Et ces 3 autres, c'est ce qu'on appelle les PNE. Ce qu'on appelle les PNE. Donc, c'est pas peaceful. Donc, c'est des explosions pacifiques. Donc, c'est pour les grands projets, etc. Ils ont fait ces explosions-là.
Mm-hmm.
Donc, c'est 60.
60, d'accord.
Actuellement, bon, malheureusement, après 63 ans, la situation n'a pas trop changé. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que la France n'a pas avancé un iota dans ce dossier. Notamment, en ce qui concerne les archives. Parce que c'est avec les archives qu'on peut avancer dans un dossier pareil. Par contre, il y a un danger, il faut avoir les données, les informations de ce danger, où est-ce qu'il se trouve, c'est-à-dire sur tout le plan en hauteur, c'est-à-dire en largeur, en longueur, etc. Donc, les archives, on n'a pas pu les avoir, malgré ça a été ouvert en 1998, et puis on les a fermés tout de suite. Donc, le peu qu'on a ne nous permet pas de connaître exactement les endroits où a été on a enfoui les déchets, les filières, parce qu'il y a des tonnes de déchets, il y a des véhicules, des blindés, des chars, des bateaux, des avions contaminés qui sont enfouis au niveau de ça, mais qu'on n'est pas à l'endroit, donc c'est un danger toujours permanent. Aussi, les explosions surtout aériennes qui présentent le plus de danger.
Oui, absolument.
Parce que ça se répartit sur le sol à 150 km, à 200, à 300, etc. Toutes ces données-là, on ne les a pas. 63 ans et après. Revenons à Heineken, aussi, il y a eu des accidents. Malgré ces souterrains, contre des souterrains, ça, ces explosions se... maintenu, donc c'est-à-dire la radioactivité, elle est maîtrisée, etc. Il n'y a rien, mais malheureusement, les accidents, il y a eu tout le nuage nucléaire qui est sorti, la lave, et cette lave, elle est projetée devant la montagne à 200 mètres, etc. Et c'est des tonnes, je crois au moins il y a 10 tonnes.
10
de,
tonnes
de lave contaminée qui demeure sur le lieu jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Malheureusement, après 63 années. Donc, toutes ces contaminations ont eu des effets dans le temps, 60 ans. Depuis 60 ans, il y a eu des pluies qui ont véhiculé ces radioactifs, il y a les vents de sable, etc. La preuve, l'année passée, le vent de sable qui est arrivé en France, était contaminé. Donc, 60 ans après. Donc, le danger est connu. Donc, on n'a pas à prouver, à démontrer le danger. La preuve, le vent de sable, eux-mêmes reconnaissent que ce vent de sable contient de la radioactivité. Donc, c'est une reconnaissance de la part d'ennemis, même lui-même.
D'accord.
Donc, sans parler que durant toute cette période, après les témoignages, etc., on parle de disparition de certains types d'animaux, on parle de disparition de certaines plantes, notamment des plantes médicinales, on parle aussi de l'agriculture, on ne donne plus ni la tomate, ni le blé, etc. C'est pas comme avant, les dattes, les palmiers, tout a été chamboulé, il y a tout un changement, c'est-à-dire dans ces régions-là, et on a des preuves, on a même des photos, on a des témoignages qui parlent de cette catastrophe au niveau de la région. Maintenant, au niveau des êtres humains, donc effectivement, si je parle uniquement de l'accident de Béryl, le 1er 62, le nuage est passé par un virage Idels et il y a eu des morts sur place, des morts des animaux, des tas de choses. Il y a des témoignages, il y a des témoignages, même français, quand on dit témoignages, c'est des français, il y a des mémoires, les gens, ils ont écrit leurs mémoires, donc ils reconnaissent surtout les soldats, ils reconnaissent certains faits, etc. Donc, depuis 60 ans, et cette région, elle est victime, soit la faune, la flore, ou des êtres humains, et puis, ces dernières années, il y a eu l'apparition de la malformation.
D'accord.
Des gens qui n'entendent pas, des gens mal formés, des monstres, des gens sans membres supérieurs ou inférieurs. Vraiment, c'est horrible. Donc, ça veut dire que la radioactivité, comme l'a dit Einstein, l'atome ne pardonne pas.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, quand on fissionne un atome, c'est toute une énergie, c'est des produits qui émettent des rayonnements, c'est des tas de choses. Et la France a abusé du Sahara algérien, c'est-à-dire d'une région de l'Algérie qui est habitée et que la France, dans le temps, dit que cette région n'est pas habitée, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de, etc. Donc c'est des mensonges. Et même ce mensonge a été dit au niveau de l'ONU en 1959 par le représentant Moche, le représentant de la France.
Et rappelons que déjà depuis Hiroshima et Nagasaki, on savait très bien l'impact des rayonnements ionisants sur la vie humaine ou sur tout le vivant.
C'est-à-dire les Français connaissent très très bien la chose, parce qu'en 1957, il y a eu la publication de documents qui parlent des effets des radiations sur le vivant, et ils ont été traduits en français. Ils connaissent le danger avant qu'ils ont la première explosion en 1960. Ils connaissent tout. Mais le problème, ce n'est pas connaître ou ne pas connaître. Le problème, ils ont un programme. Ils ont un objectif. C'est d'accéder au club nucléaire. Et peu importe, c'est l'Algérie qui paye, parce qu'ils savent très bien la France. Paris, elle est à 2000 kilomètres. On n'est pas concerné. C'est pour cette raison, et malgré qu'ils connaissent le danger, donc c'est prémédité. Et donc c'est un crime, qu'on veut ou non, c'est un crime contre l'humanité, qu'on veut ou non. Parce que la population n'a pas été saisie, on n'a pas demandé son avis. À l'époque, il y avait un gouvernement algérien ou bien provisoire, il y avait quand même... personne n'a été saisi, personne n'a pas demandé leur avis. Donc, ils ont abusé de... Bon, c'est le colonialisme, c'est tout à fait normal. Donc, ils n'ont rien à perdre. Et maintenant, je crois, à mon avis, le contexte international, le contexte même africain et régional, permet à l'Algérie de faire pression sur la France, comme ça fait... avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec le Mali. C'est-à-dire, il faut que le colonialisme, qu'il faut bannir à jamais, on n'en parle plus. Il ne faut pas que cette même mise, etc., et pas de reconnaissance, etc. Jusqu'à quand? Jusqu'à la disparition totale des Algériens ou quoi? Je ne comprends pas. Donc, il faut mettre un terme. Moi, je le dis, si on inverse les choses, si c'est l'Algérie qui apporte des cinquillères au niveau de la France, elle a déjà payé il y a longtemps.
Absolument.
C'est-à-dire, pourquoi deux poids, deux mesures? Quand il s'agit des pays comme l'Algérie, des pays africains, donc on n'en parle pas. Quand il s'agit des puissances arabes, etc. Donc, à mon avis, il faut qu'on bouge dans le bon sens, parce que 63 années, c'est beaucoup. Pour un crime pareil, un crime qui a des conséquences visibles, des conséquences, c'est-à-dire indiscutables. Donc, ce n'est pas quelque chose où il y a un doute. Non, ce n'est pas moi, c'est lui, ce n'est pas moi, c'est lui. Donc, ici, on ne peut pas dire que c'est malformation, que c'est la disparition de certains animaux, ou bien la production agricole qui a dégraissé, etc. Ce n'est pas l'effet des... On ne peut pas le dire parce qu'il y a des études au niveau mondial. Parce que ce n'est pas l'Algérie elle, qui a été uniquement le théâtre d'exploits nucléaires. Mm-hmm. Il y a eu le Marshall avec les États-Unis, il y a l'Australie avec l'Angleterre. Et c'est pour cette raison qu'il faut que les pays victimes s'unissent, à mon avis. Et moi, il y a pas mal d'occasions où j'ai dit qu'il faut organiser une conférence internationale sous l'égide de l'ONU et que tous les pays victimes doivent défendre leurs droits, etc. Peut-être on arrive à un consensus international où il va y avoir entre l'entraide de tous les pays qui ont des expériences pour décontaminer ce qu'on peut décontaminer et pour, en même temps, prendre en charge les victimes. C'est-à-dire la France doit, par exemple, construire des hôpitaux au niveau de Heineken et de Ergen. Pourquoi pas? Et construire des hôpitaux pour prendre en charge les victimes, soit les cancéreux, soit les gens de ma formation, etc.
D'accord.
Décontaminer le maximum de superficie pour que les gens puissent vivre, c'est-à-dire en sécurité par rapport à ces rayonnements. Et comme le cas a été fait avec l'Angleterre et l'Australie, il y a des exemples. Pourquoi pas la France? C'est pour cette raison, je crois, on a tardé et on est en train de perdre beaucoup de temps. Et la France, une de ses politiques, c'est les mensonges et la perte de temps. Et on
D'accord.
est en train de subir.
Bien. Alors, j'aimerais bien donner pour la seconde question, j'aimerais bien donner quelques chiffres parce qu'ils sont assez révélateurs. Je rappelle que M. Mansouri vient de nous donner un scoop en disant que c'est le spécialiste algérien qui a travaillé sur le programme militaire français en Algérie, qui a trois autres essais qui viennent d'être découverts. Trois explosions souterraines.
Mais ce qu'on appelle PNE, c'est Peaceful Nuclear Explosion.
Peaceful Nuclear Explosion.
C'est-à-dire, le but, c'est pour ces essais, pour les grands projets, pour mettre les tunnels, etc. Donc, ils font des essais pour les appliquer dans les tunnels.
D'accord. Bien. Alors, moi, je vais m'arrêter juste parce que j'ai fait ma recherche un peu documenté sur le sujet. Alors, je vais m'arrêter à 57 essais. Donc, les chiffres que je viens annoncer
explosion,
sont...
Explosion.
Pour
ne pas... Quand on dit 57 ou 60, on doit dire essais et explosion.
Essais et explosion, oui.
Parce que essais et explosion, ce n'est pas la même chose.
D'accord. Sur le plan
J'attire l'attention sur le plan international, l'ONU, l'OIC, ils parlent d'essais. Je ne suis pas d'accord. Donc, parce qu'un essai, c'est comme les 35, c'est de essai complémentaire, essai de sécurité, il n'y a pas un grand danger. Parce qu'une explosion, on ne peut pas dire que c'est un essai. On dit, ça explose. Comment tu dis c'est un essai?
D'accord.
C'est pour cette raison, moi, c'est le terme explosion. Voilà.
OK. Alors, le bilan total des explosions et essais nucléaires français en Algérie entre 1960 et 1966, si on s'en tient aux 57, est de 600 kilotonnes, soit plus de 46 fois la bombe d'Hiroshima et plus de 28 fois celle de Nagasaki. Alors, des quantités importantes de plutonium ont été dispersées, certainement sur des milliers d'hectares. Pour ce qui est des accidents dont vous avez rappelé quelques-uns, majeurs répertoriés entre 1962 et 1965 au Sahara algérien, on comptabilise 6 au total, dont 2 à Ergen, 4 à Heineken. Et voilà. Et 8 autres essais souterrains du Tan Afela ont provoqué des fuites de gaz radioactifs de moindre importance. Enfin, à Hamoudia, les expériences complémentaires sur les pastilles de plutonium réalisées dans des cuves ont généré de la radioactivité, plus particulièrement celle du 19 avril 1962 et du 28 juin 1962. Bien. Alors, la question, Monsieur Mansouri, 600 kilotonnes, quand même, c'est pas rien. C'est énorme quand on voit la dévastation qu'ont subi Hiroshima et Nagasaki avec des bombes minuscules par rapport au total des explosions françaises. Alors, tout ça est dispersé dans le Sahara. Et avec les vents, la sécheresse, le changement climatique, c'est toute la région du Sahel, de l'Afrique subsaharienne. Et comme vous l'avez rappelé déjà, il y a même le sud de l'Europe qui est atteint par les sables radioactifs. Donc, malgré ce bilan catastrophique, La France, qui a reconnu sa responsabilité, par exemple, en Polynésie française, maintient une omerta sur ces crimes en Algérie. C'est ce que vous avez expliqué d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui explique cette politique à géométrie variable ? Pourquoi là, on reconnaît et on essaye de faire quelque chose, et là, là où le désastre est encore mille fois pire qu'en Polynésie française, parce que là, il atteint toute l'Afrique, disons les choses comme elles sont, et même le sud de l'Europe.
L'essentiel, c'est la Polynésie, c'est des citoyens considérés français, la première. La deuxième, les Polynésiens, ils sont intelligents, et il y a eu pas mal d'associations qui défendent ce dossier, qui défendent les victimes. Ils sont arrivés à mettre au niveau de l'ONU un dossier de décolonisation de la Polynésie, donc l'indépendance de la Polynésie. Donc ils ont fait une grande pression sur la France en demandant l'indépendance. Ça, il faut l'enregistrer, le dossier se trouve au niveau de l'ONU. Donc, la France, elle est obligée de céder. Par contre, du côté de l'Algérie, il n'y a pas de reconnaissance parce qu'on n'a pas mis le paquet. C'est tout. Et donc, normalement, deux poids, deux mesures, ça ne se fait pas. Parce que la France, au niveau de la police, elle a reconnu, elle a donné même des dossiers médicaux pour les victimes, elle a construit un hôpital en 2007 pour les victimes, elle a décontaminé. Et donc, il y a pas mal d'actions qui ont été faites au profit des victimes polynésiennes. Du côté algérien, même pas une reconnaissance, même pas, comment dirais-je, les archives. Alors que si on se prend même reconnaissance, si je prends le cas des États-Unis avec le Japon, Obama a visité le Hiroshima.
Pour rappel,
les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki sont les seuls exemples dans l'histoire de l'humanité de l'utilisation militaire d'armes nucléaires. En août 1945, des avions de l'US Air Force ont largué des bombes atomiques sur ces deux villes japonaises. L'explosion et ses conséquences ont tué 140 000 personnes à Hiroshima et 74 000 à Nagasaki. La grande majorité des victimes étaient des civils. Le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima a été Barack Obama en 2016. Toutefois, lors de cette visite, il n'a pas présenté d'excuses et n'est pas revenu sur la justification du largage des bombes. Le 6 août de cette année, date anniversaire de ces événements tragiques, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'élimination des armes nucléaires restait la priorité absolue des Nations Unies en matière de désarmement. Toutefois, en parlant des victimes du bombardement d'Hiroshima, il n'a pas nommé le pays responsable de leur mort, à savoir les États-Unis d'Amérique.
Je rappelle aussi que Ban Ki-moon, en 2006, si j'ai bonne mémoire, il a visité au Pakistan. Donc, c'est des choses de reconnaissance. On n'a jamais vu un officiel français venir à Erbil ou bien comme reconnaissance pour etc. Il n'y a pas. Donc, du côté de l'Algérie, la France n'a rien fait jusqu'à ce jour. Si je prends les États-Unis avec l'île Marshall, ils ont reconnu, ils ont décontaminé, etc. L'Angleterre avec l'Australie, la même chose, etc. Sauf le cas qui reste, qui n'a pas été traité, pris en considération, c'est le cas Algérie-France. Point d'interrogation.
Et pour la question de la Polynésie française, il y a une polémique qui a explosé, ça fait quelques jours. Est-ce que c'est une question pour encore faire avancer la revendication de réparation et de décontamination, ou il y a quelque chose d'autre ?
Sur la Polynésie, il y a des problèmes politiques, mais ce problème des explosions, ils l'utilisent. Mais eux, ils luttent beaucoup plus pour l'indépendance.
D'accord.
Et le peuple Mao, donc c'est une autre culture, c'est une autre civilisation, c'est autre chose. Donc, mais comme ils ont un atout, c'est l'histoire, ils l'utilisent. Et le but, c'est l'indépendance. À mon avis, c'est un point de vue.
D'accord, bien sûr, bien sûr. Mais pour le reste des pays du Sahel, M. Mansouri, et de l'Afrique subsaharienne, est-ce qu'un travail similaire a été fait comme celui qui a été fait en Algérie pour cartographier les régions qui éventuellement ont été contaminées après tout la poussière qui s'est propagée un peu partout? Et est-ce qu'on a comptabilisé des cas de malformations ou de maladies graves causées par la radioactivité?
Non, moi, ce que j'ai, la carte qui a été la carte de la prime explosion du 13 février, j'ai un bord bleu, donc les faits de cette explosion sur l'Afrique. Donc, a été publié le 2014.
Oui.
Donc, c'est une des cartes qui avait le top secret défense. Mm-hmm. Donc, cette carte, on voit la radioactivité où elle est arrivée à quel endroit, N'Djamena, Khartoum, c'est voyé. Donc, ici, il y a une reconnaissance que ces pays ont été contaminés, que la radioactivité est arrivée à ces pays-là. Si je parle de l'accident du 1er mai 1962, les avions américains, ils ont suivi le nuage à partir de la frontière jordanienne jusqu'à d'autres pays. Donc la contamination a touché beaucoup de pays, et même le sud de l'Europe, l'Espagne, la France, etc. Donc à partir de ces données, le peu de données, parce que les données arrières on ne les a pas, peu de même, c'est, j'ouvre une parenthèse, même le nombre d'essais d'explosions, le nombre d'accidents qu'il y a eu en Algérie, c'est pas la vérité. Il y a toujours des choses cachées. Donc, ces pays-là, normalement, il doit y avoir un travail au niveau de l'Union africaine, un travail dans ce sens-là, concernant ce dossier-là, les essais des explosions nucléaires françaises en Algérie sur les pays africains. Et on va trouver des gens, des cancers, on va trouver des malformations. Peut-être les gens n'ont pas une idée, peut-être, que c'est du fait des radiations. Parce que chez nous, en Algérie, en 1962, quand il y a l'accident du Biril, les témoins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a eu des morts une semaine après, 10 jours après. Pour eux, c'est quoi? Oui, c'est la tuberculose, etc. C'est des maladies. Ils n'ont jamais pensé que la radioactivité qui tue. Vous voyez?
Oui,
donc
oui.
Même au niveau de l'Afrique, s'il y a des malades, c'est bien, ils ne peuvent pas faire la relation. Mais c'est à nous de prendre en charge ce dossier et voir, faire la relation entre ces qui ont eu lieu en 60, 66, sur les populations, surtout limitrophes à l'Algérie, la Libye, la Tunisie, le Tchad, le Mali, le Niger, c'est-à-dire ces pays-là, le Burkina Faso, ces pays sont touchés directement et avec de fortes radioactivités.
Donc là, je vois un peu le sens de l'idée que vous avez avancée tout à l'heure en disant qu'il faut une alliance de plusieurs pays, au minimum tous ceux qui ont été touchés.
Exactement.
Et dont on a les preuves qu'ils ont été touchés par la radioactivité et dont on ne sait pas encore s'ils sont encore...
Comme preuve, c'est la carte que la France a publiée.
Oui.
C'est ça, eux reconnaissent qu'il y a eu contamination.
J'ai vu la carte, question, et c'était un nuage extrêmement intense qui est arrivé. C'est pas un nuage faiblard qui s'est propagé vers l'Afrique subsaharienne, mais c'était très, très dense.
Intense.
Oui.
Non, c'est-à-dire, ça, ce qu'on a pu voir, mais ce qui est caché, c'est encore pire, parce qu'on ne nous a pas donné tous les secrets. Est-ce que vous m'avez compris?
Oui.
Mais nous, avec le peu qu'il y a, avec cette carte, uniquement cette carte, on peut faire avancer un dossier.
D'accord. Bien. Alors, une dernière question sur le contexte international actuel. Alors, le président russe Vladimir Poutine a appelé mardi 21 février 2023 les forces russes à se tenir prêtes à réaliser des essais d'armes nucléaires au cas où les États-Unis en prendraient l'initiative, c'est-à-dire de reprendre les essais nucléaires. Il a également annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain New START sur le désarmement nucléaire, signé en 2010. Ce traité fondamental dans l'architecture sécuritaire internationale est le dernier accord bilatéral du genre entre les deux anciens adversaires de la guerre froide et vise à limiter leurs arsenaux nucléaires. Et on a ici, la Russie avait déjà annoncé début août suspendre les inspections prévues sur ces sites militaires. Et ces annonces interviennent alors que le dernier essai de l'Union soviétique a eu lieu en 1990. Donc 1990, on est à 33 ans du dernier essai nucléaire soviétique. Bien. Alors, qu'en pensez-vous de cette situation ? Qu'en pensez-vous de cette situation ?
À mon avis, ils n'ont pas besoin de faire des essais classiques. La simulation, parce que s'ils reprennent les recherches dans ce domaine, c'est tout à fait légitime pour eux. C'est par rapport à l'OTAN et par rapport aux États-Unis. Pas qu'ils savent pas ce qu'on leur prépare de l'autre côté. Bon, sur le plan économique qu'on a vu, bon, l'universalisme actuellement, il y a pas mal de mesures contre la Russie, pardon, mais sur le plan militaire, ils ignorent qu'est-ce qu'on leur prépare. C'est pour cette raison, eux, ils s'engagent. Ils s'engagent à lancer les essais par simulation, ou etc. Donc, c'est de bonne guerre. Donc, on ne peut rien dire.
D'accord. Donc, en réalité, c'est un peu la doctrine de la destruction mutuelle.
Voilà. Qui se détruisent mutuellement, il n'y a pas de problème. On est spectateurs.
C'est-à-dire, ça crée une certaine... ce qu'on appelait durant la guerre froide, la destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire cet équilibre de la terreur qui permet justement de faire avancer la paix. Mais pour revenir justement à la question fondamentale de cette émission, donc sommes-nous en passe de revivre l'enfer de la guerre froide ? Y a-t-il moyen de mettre un terme à l'existence des armes nucléaires ? Et est-ce que cet objectif est réellement atteignable ?
J'ai dit que la possibilité, c'est qu'on est en train de vivre dans un monde qui n'est pas juste. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont sous-développés qu'on est en train d'exploiter, que l'Occident exploite. Mmh. Et leur peuple migre vers l'Europe, ils meurent dans les mers, etc. Donc, à mon avis, actuellement, il y a une course entre les puissances, c'est une course beaucoup plus économique, énergétique, etc., qui peut, avec s'il y a un conflit d'intérêts quelque part, qui peut déboucher sur un conflit militaire. Mais c'est aux pays, maintenant, aux pays sous-développés, aux pays tiers-monde, aux pays musulmans, arabes, c'est tous ces pays-là, qui doivent s'unir et doivent avoir une feuille de route pour développer leur pays sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan dans tous les domaines, etc. Donc, si ces pays-là restent sous le joug de ces puissances, et ils demeureront jusqu'à l'éternité des esclaves, etc. Donc, je crois, actuellement, au niveau de l'ONU, les CPI-là peuvent jouer un rôle, ils peuvent, c'est-à-dire, faire des résolutions qui leur permettent de devenir plus indépendants, d'accéder au développement comme les autres pays, et d'améliorer, c'est-à-dire, la vie des citoyens de ces pays-là.
Je vous entends. Je vous remercie, Monsieur Ammar Mansouri. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Donc, Ammar Mansouri, je vous remercie à nouveau pour toutes ces informations et ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Le 26 septembre.
Le 26 septembre.
Le 26 septembre.
Oui, qui correspond à quelle date?
L'interdiction totale.
C'est l'interdiction des armes nucléaires. Ben, je vous remercie, monsieur Mansouri, pour cet éclairage et à bientôt.
Merci beaucoup. Portez-vous bien.
C'était le docteur Ammar Mansouri, chercheur en génie nucléaire à la retraite, qui a travaillé sur le programme nucléaire militaire français en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.